on met pas de l'ananas sur une pizza, tu vois, ça n'a aucun sens.
On m'a tout le temps dit, c'est cliché de l'italien qui mange pas des pizzas ananas.
C'est pas bon, bah, c'est dégueulasse parce qu'il y a du fruit sous la pizza.
Donc l'ananas, c'est un peu le pantacourt de la gastronomie.
Mais j'ai découvert que gustativement, c'est très intéressant. Tous les cuisiniers, et même des Italiens, une fois dans la vie, vont goûter cette pizza ananas. Juste pour se faire une idée et être pragmatique, dans le sens, si c'est bon, le dire que c'est bon.
Après tout, pourquoi pas? Moi, si on me servait une pizza à l'ananas, je la goûterais. Puis après, j'irais voir un exorciste, mais je la goûterais.
Se revendiquer comme mangeur de pizza à l'ananas ou au contraire comme opposant à la pizza à l'ananas, c'est revendiquer faire partie d'un groupe.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Le monde a un avis sur la pizza hawaïenne, et celui-ci est forcément tranché. Comment expliquer cela? Pourquoi se sent-on autant obligé de revendiquer son fort amour ou à l'inverse son profond dégoût pour l'ananas sur les pizzas? Très ancrée dans la culture populaire, à travers les séries, les mèmes et les plaisanteries, l'histoire de la pizza ananas est si clivante qu'elle ne peut se limiter à un simple débat à propos de l'ajout d'un fruit sur un monument de la gastronomie italienne. Le cas de la pizza hawaïenne dit forcément autre chose. Un quelque chose qui touche au purisme en matière de comportements alimentaires, à la subversivité en cuisine, au goût et au mauvais goût, et au principe de faire communauté derrière eux. Vous écoutez une série sur la pizza hawaïenne, mais surtout sur la construction d'une norme culinaire et sur ce que aimer ou ne pas aimer en dévier dit de nous. Cela fait 2 semaines que l'on parle ensemble de pizza hawaïenne et de son côté clivant. Et plus on explore cette question, plus on comprend qu'un aliment, un objet comestible donc, est toujours plus qu'une association de goût et de texture. Un aliment n'est jamais le même selon le point de vue depuis lequel on l'observe, selon le contexte dans lequel on l'ingère, selon nos vécus, selon nos référentiels, nos patrimoines culturels, un ingrédient ou une spécialité culinaire peut se gorger d'attributs symboliques différents. Et la pizza ananas est un cas d'école. En effet, c'est bien parce que la pizza, autrement dit un disque de pâte surmonté de garniture, c'est bien parce que la pizza est en soi un produit mondialisé, facile à reproduire aux quatre coins de la planète et aisément personnalisable, qu'elle est un mets identifiable, que nous sommes si nombreux à avoir déjà mangé jusqu'à avoir un avis et des préférences à son propos. L'historienne Catherine Malaval, spécialiste de l'histoire des entreprises, confirme.
On comprend avec cette pizza, puisque finalement... Elle est connue aussi dans le monde entier. C'est le propre de l'originalité de ce produit. C'est cette capacité à s'adapter à des cultures locales et à être agrémentée, au sens vraiment étymologique du terme, à être agrémentée de choses nouvelles qui vont la faire s'implanter dans un pays pour longtemps.
Catherine Malaval voit en le succès de la pizza ananas industrielle le symbole d'une société occidentale qui optimise son temps de repas en voulant manger un plat complet servi en un objet unique. Mais aussi la mode du sucré-salé qui peut donner l'impression d'avoir, dès le cœur du repas, la touche sucrée habituellement associée au moment du dessert.
Finalement, on a à la fois le plat et le dessert à l'intérieur. Et c'est ça, c'est vraiment une révolution dans les modes de consommation qui est lié au XXe siècle, on parle de la pizza, mais on aurait pu parler aussi du sandwich ou du casse-croûte en français. Mais la pizza est vraiment un symbole de l'évolution des modes de travail au XXe siècle. C'est-à-dire que le repas, il devient ce qu'on appelle un peu techniquement synchronique. C'est-à-dire que le plat, en soi, est un repas. À l'heure du déjeuner, il est plus séquentiel, c'est-à-dire qu'on ne mange plus les choses les unes après les autres. Mais synchronique, c'est qu'on les superpose. Et les ingrédients, aussi bien finalement la pâte, le pain, les légumes, la viande, tout est superposé dans une même chose et non plus manger les uns après les autres. Et d'ailleurs, l'historien Gilles Bertrand en parle très bien dans le livre qui s'appelle « L'épicerie du monde », qui est sorti il y a quelque temps. Mais cette façon, ça résulte en fait d'une évolution du monde du travail où on a besoin de manger plus vite, d'être plus performant, et la pizza est l'incarnation d'un monde plus pressé.
On l'a vu dans le précédent épisode, la pizza hawaïenne est tantôt un objet culinaire dévoyé de son artisanat, signe d'une mondialisation qui déforme et industrialise les choses à l'envi, signe d'une pizza rendue possible par l'essor des boîtes de conserve d'ananas dans les grandes surfaces nord-américaines, tantôt le symbole d'une transgression alimentaire, une émanation de la nécessaire subversivité en cuisine, celle qui balaye les codes de la tradition et se refuse à penser que pour être digne de ce nom, une pizza doit absolument être napolitaine. Ce que la pizza hawaïenne montre aussi, c'est qu'au-delà du goût de quelques tranches de fruits dont on fait mine de débattre, c'est surtout des goûts et des dégoûts des autres que l'on parle.
Je ne sais pas s'il existe une sentence assez représentative de la faute de goût que Gianmarco assume. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir la photo de Gianmarco et de la mettre dans toutes les pizzerias en disant « ce cuisinier-là aime la pizza à l'ananas ».
Julien Seri, vice-champion de France 2018 de la pizza, avait bondi au plafond en écoutant notre interview de Gianmarco Gorni, chef italien qui racontait au micro de Bouffon adorer la pizza à l'ananas.
La pizza hawaïenne, c'est une grande découverte culinaire parce que c'est un ensemble de jeux de texture, de jeux de parfums, de goûts qui est exceptionnel.
Mais Julien Seri a finalement mis de l'eau dans son vin.
Mais je l'aime quand même, Gianmarco. Je l'aime de cœur. Et c'est pour ça que peut-être un jour, j'arriverai à me mettre d'accord avec lui et peut-être qu'un jour, je ferai une pizza à l'ananas avec lui qui me permettra de me réconcilier avec cette faute de goût et d'en faire quelque chose de très funky. En fait, tout n'est qu'une question de mode. C'est comme les gens qui portent des buffalo. C'était la grande, grande mode il y a 20 ans. Aujourd'hui, certains en portent. C'est vu comme du mauvais goût, alors que peut-être qu'en fait, pas du tout. On est juste précurseur. Et dans 2 ans, ça sera la super mode. Donc peut-être que Gianmarco est en avance sur moi. Et je pense que c'est le cas.
Giancarlo, lui, est un pizzaiolo d'origine sarde à la tête de la Drogheria Italiana, une pizzeria du 11e arrondissement à Paris. Son avis sur la pizza ananas n'est pas si tranché. La pizza hawaïenne ne fait pas partie de son patrimoine culturel, mais il n'est pas non plus farouchement opposé à son existence.
J'ai jamais eu cette occasion pour pouvoir goûter une pizza hawaïenne. Bah, je sais que cette pizza-là, elle fait beaucoup de débats. Mais bah, pourquoi pas? Franchement, je suis pas très, très contraire à la chose. Sauf, bon, moi, je le ferai jamais dans ma pizzeria, donc bah, ça c'est un choix. Mais si les autres, ils la mettent, parce qu'il y a quand même du marché, donc ils arrivent à la vendre, bah, pourquoi pas. Si le marché, il le demande, si les clients, ils le demandent, bah, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il y a un côté du marché qui aime cette pizza.
Alors, pourquoi les goûts des autres agissent-ils autant comme des miroirs de nos goûts? Qu'est-ce qui se joue dans l'expression de notre identité à travers celle de nos goûts? En quoi ce qu'aiment ou ce que détestent les autres nous aide-t-il à identifier ce que nous sommes? En 1979, sur le plateau télé d'Apostrophe, émission littéraire française produite et animée par Bernard Pivot, le sociologue Pierre Bourdieu lançait
« Ce qui est d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. » C'est le dégoût du goût des autres. Enfin, ça, je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte.
La même année, Bourdieu publiait son essai « La distinction » aux éditions de Minuit. Dans ce texte, il explique que les goûts et les dégoûts de chacun expriment leur position dans le monde social, ce qui est un mélange de capital économique et de capital culturel. En d'autres termes, le bon goût naturel et spontané n'existe pas. Il n'y a pas de beau ou de bon dans l'absolu. Tout est toujours une affaire de construction sociale. Ainsi, dans notre histoire de pizza hawaïenne, on ne peut véritablement dire que l'ananas sur la pizza est gustativement une bonne ou une mauvaise idée dans l'absolu. En revanche, notre goût ou notre dégoût pour elle nous situe par rapport au goût et au dégoût des autres. Entre identité et altérité, l'alimentation définit ce que nous sommes et nos liens aux autres. Cette tension entre nous et les autres, c'est aussi ce que l'on retrouve en ethnologie. L'ethnologie est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères culturels des groupes humains. Pour comprendre en quoi nos goûts et dégoûts renforcent le sentiment d'altérité et de différence, ou à l'inverse de communion avec les autres, je suis allée au Musée de l'Homme pour tendre le micro à Sandrine Ruhlmann, dont le labo de recherche est situé dans le même bâtiment.
Je suis chargée de recherche au CNRS, je suis anthropologue, spécialiste de l'alimentation, donc des pratiques alimentaires.
L'ethnologue fait une distinction entre le dégoût des sens et le dégoût culturel.
Le dégoût, ça relève d'un ensemble de sensations, comme le goût d'ailleurs. C'est vraiment plurisensoriel. C'est à la fois une question dans la texture, dans l'odeur, dans le... Parfois même, ça peut être visuel aussi. Mais... Et du coup, pour moi, le dégoût, c'est quand le mélange de tout cela fait que ça me donne presque des hauts le cœur, rien qu'à l'idée de le manger. Et c'est souvent lié d'abord à l'odeur chez moi. J'ai une anecdote, c'est par exemple, typiquement pour moi, c'était l'odeur des choux de Bruxelles de la cantine scolaire. C'est un truc, je me cachais dans les toilettes quand ça sentait le chou de Bruxelles, parce que je savais que j'allais vomir, mais rien que l'odeur me donnait des haut-le-cœur et me donnait envie de vomir. Donc après, à quoi j'associe ça? C'est assez étonnant, parce que du coup, le chou de Bruxelles, j'associe ça à la cantine, alors que les autres repas me donnaient quand même envie d'aller à la cantine, parce que c'était un moment de sociabilité, et puis un moment où on discute aussi, donc c'est convivial, c'est... voilà. Mais il y a aussi des dégoûts qui m'évoquent la cuisine de ma grand-mère, alors que j'aimais les plats qu'elle faisait, mais il y avait des choses qui à l'odeur, et du coup, rien que l'odeur ne me donnait pas envie de le porter à ma bouche. Alors il y a cet ordre de dégoût-là, qui part des sens, et puis après, et de mes sensibilités propres. Et puis il va y avoir aussi le dégoût qui va être, je pense, Donc là, pour moi, il y a un rejet. C'est-à-dire que ça me donne des haut-le-cœur à l'idée même, rien qu'à l'odeur ou à la vue. Et du coup, il y a vraiment un empêchement total de le porter à ma bouche. Et il faut presque que je m'en éloigne. Continuer à le sentir, ça me dégoûte vraiment. Alors qu'il y a un dégoût qui va être plutôt d'ordre, je veux dire presque plus culturel, je crois, qui va être de l'ordre des catégories, je pense, qu'on classe tous un petit peu les aliments dans notre imaginaire, mais aussi dans notre pratique. Et ça va être culturel à différentes échelles. Ça veut dire, soit c'est parce qu'on appartient à une classe sociale, soit parce qu'on appartient à un groupe, donc par exemple, ou des sous-groupes, comme par exemple si on est végétarien ou végétalien, ou parce qu'on a un régime spécifique, si on est sans gluten ou autre chose. Donc là, je pense que du coup, dans les dégoûts alimentaires, c'est pas des choses qu'on se prescrit, mais ça va être des choses qui, du coup, vont presque nous... Je pense qu'un végétarien, de voir de la viande, ça va aussi le dégoûter. C'est-à-dire qu'il va pas juste interdire de la viande pour des raisons écologiques, de bien-être animal, etc. Oui, il va y avoir ces intérêts-là, ces raisons-là, mais du coup, ça va lui provoquer aussi une forme de dégoût. Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont végétariens. La vue de la viande leur provoque du dégoût maintenant.
Pour illustrer la différence des goûts en cuisine, j'ai demandé à Sandrine Roulman de me parler de son dernier choc gustatif en tant qu'ethnologue. Elle s'est souvenue de deux plats découverts en Mongolie. Le premier, une soupe de mouton, qui l'a étonnée sans non plus la rebuter.
Déjà, le mouton, c'est vraiment la viande préférentielle des Mongols et on va dire plus spécifiquement peut-être des nomades. C'est une viande qui est socialement la plus valorisée parce qu'elle est grasse et puis il n'y a aucune déperdition de gras parce que de toute façon, la viande est bouillie. Et pas bouillie où nous on pourrait l'entendre, c'est pas mijoté, c'est bouilli dans de l'eau de façon très prolongée. Et c'est un mode de cuisson qui préserve le gras, qui est vraiment ce qui compte le plus sur le plan gustatif, mais aussi sur le plan calorique et calorifique, en fait. Il faut dire qu'il fait froid 8 mois de l'année en Mongolie. Donc voilà, typiquement, voilà par exemple une soupe avec de la viande de mouton. Elle est réchauffée, celle-ci, dans du thé au lait. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. On fait de la soupe de viande. Donc c'est de la soupe contient de toute façon de la viande. C'est un bouillon de viande avec des petits morceaux de gras qu'on rajoute, des morceaux de gras dur. Donc il y a... En surface, qu'il y ait du lait ou pas d'ajouter, il y a le gras qui se dissout à la cuisson, qui va former des yeux à la surface, du bol ou de la marmite, et il y a ce gras dur qui ne va pas se dissoudre et qui va croquer sous la dent. Ça, typiquement, ça a l'air assez délicieux. Et typiquement, moi, ça ne me rebutait pas, ça ne me dégoûtait pas. Pourtant, j'enlève mon gras, j'enlève la couenne du jambon quand je mange mon jambon. Mais là, ça ne me dégoûtait pas. Et puis, j'avais le sentiment, en voyant ça, que ça allait me réchauffer. Donc, en plus, ça, c'était tentant pour moi. Par contre, les morceaux de gras durs, je n'ai jamais pu les consommer. Donc, les enfants venaient et récupéraient mes morceaux de gras et les mangeaient. Mais il n'y avait pas de dégoût pour ce plat-là.
Le second plat, lui, était un plat d'intestin. Très différent de ses habitudes alimentaires et donc difficile à apprécier pour Sandrine Roulman. L'occasion pour l'ethnologue de parler de la neutralité de sa profession. un principe longtemps enseigné, mais désormais remis en question par une nouvelle génération d'ethnologues qui préfèrent assumer leur subjectivité.
C'est le plat des intestins. Pour moi, c'est plus difficile. Je ne mange pas d'abats ni de boudin déjà. Et là, c'est bouilli de façon très prolongée et c'est très fort en goût parce que c'est pas de la... voilà, c'est du vieux mouton qu'on abat. Et donc, c'est très fort en odeur. Il y a une odeur vraiment prégnante. C'est accompagné du bouillon de cuisson, hein, toujours. C'est présenté de façon, pour moi, à la vue, qui n'est pas très appétissante. Et pour eux, c'est un plat honorifique et c'est vraiment le partager, c'est vraiment important. Et ça suit de près l'abattage du mouton. Donc c'est quelque chose qu'on va partager dans l'immédiat. Et d'abord entre hommes et ensuite avec les femmes et les enfants qui auront certaines parts spécifiques. Donc typiquement, on a le cœur, les reins, il y a des morceaux de foie. Il y a des boyaux remplis de sang et de viscères. Ça donne ça aussi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me rebute. Alors que c'est une vraie gourmandise en Mongolie. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Ils le mangent goulûment. Et ça me rappelle que j'avais typiquement ce plat-là. Je l'ai pris en photo comme ça parce que j'étais avec mon fils en Mongolie. Il avait 10-11 ans. Et pour lui, la nourriture en Mongolie a été quelque chose de très compliqué. Et notamment ce plat-là. Et quand il a vu et senti ce plat, ça a été un rejet total pour lui. Et c'était très délicat pour moi. C'est la première fois que je l'emmenais en Mongolie. C'était très délicat pour moi. Il a fallu que je lui explique qu'il ne fallait pas que ça se voie, parce que sinon c'était très impoli. Et que moi, j'allais y goûter. Parce que si aucun de nous deux y goûte, ce serait vraiment très impoli. Et surtout, moi, en tant qu'ethnologue, non pas qu'eux n'ont pas des dégoûts, mais moi, en tant qu'ethnologue, je dois avoir une position quelque peu neutre. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend. C'est un peu remis en cause aujourd'hui. Certains font de l'anthropologie un peu militante ou de l'anthropologie sensible, comme mes collègues Julien Blanc ou Léo Mariani. Et pour eux, justement, ses propres sentiments ou ses propres sensibilités doivent entrer en jeu. Moi, à l'époque, quand je faisais ces enquêtes-là, je n'avais pas du tout ça en tête. J'avais mes cours tels que je les avais appris, où on doit être objectif, mettre de la distance, être objectif et neutre. Donc typiquement, ne pas montrer son dégoût quand on travaille sur les pratiques alimentaires. Surtout quand c'est un plat qui est vraiment très apprécié. Par contre, ce qui était intéressant, c'était de voir leur dégoût à eux. Ils m'ont demandé de préparer un plat typiquement français. Et j'étais en plein milieu de la steppe, il faisait moins 40. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur préparer? Un plat de mouton bouilli, ça va être compliqué. Donc je dis, bon, bah, je vais aller en ville et je vais acheter des spaghettis sur le marché. Donc des pâtes sèches, des spaghettis. Je vais essayer de trouver des tomates. Ça m'a coûté une blinde parce qu'à l'époque, en plus, il y a 20 ans, c'était pas du tout accessible financièrement pour les familles mongoles. Et donc j'ai trouvé de quoi faire une sauce bolognaise. Et chez la famille, j'ai trouvé de la viande de bœuf, de la cuisse, que j'ai coupée en petits morceaux, mais que j'ai avant dégraissée. Donc ils m'ont regardé faire, ils m'ont regardé préparer mon petit plat. J'avais préparé la sauce d'abord et j'avais pris soin de dégraisser la viande et de la hacher menue. Donc déjà, dégraisser une viande, c'est une aberration. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le gras est très important et même on en rajoute et on rajoute des morceaux de gras dur ou des morceaux de gras de la queue de mouton. C'est le morceau préféré qui est très fort en goût et très fort en odeur. Et donc voilà, et pour eux, c'était une aberration du point de vue de l'aliment, du traitement de l'aliment qu'on va consommer. C'était une aberration du point de vue de la catégorie viande, parce que ce qui nourrit le plus, c'est le gras. Et c'était ensuite très curieux pour eux. Alors, ils ne connaissaient pas le goût de la tomate, mais c'était très curieux de mettre des légumes à l'époque dans la soupe. Le peu de légumes qu'on mettait, c'était en très petite quantité, c'était des oignons. Puis sont arrivés les carottes, le chou et les navets et les pommes de terre. Mais à l'époque, moi, il y a 20-22 ans, c'était vraiment l'oignon. Un petit bout d'oignon dans une soupe pour 10 personnes. Donc très peu finalement. Moi j'avais des petits morceaux de carottes, de la tomate, j'essayais de faire une sauce bolognaise, quoi. Un peu plus d'oignon qu'à l'accoutumée. Voilà. Donc là j'enchaînais les aberrations. J'ai saisi la viande avant même de l'incorporer dans la sauce. Donc ça aussi pour eux c'était bizarre parce que ça finissait de dégraisser la viande. Et voilà. Et donc je réserve la sauce, je fais bouillir les pâtes, je les ai faites al dente. Ils mangeaient déjà plus couramment du riz, mais plus rarement des pâtes, et qu'ils fabriquaient eux-mêmes, pas des pâtes sèches, parce que c'était trop cher de toute façon. Et ils faisaient bouillir ça très longtemps dans la soupe. Donc là, déjà, il n'y a plus le bouillon. J'ai jeté l'eau de cuisson des pâtes. Donc, c'était vraiment des pâtes, voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont été très polis, comme moi. Ils ont dit, intéressant le goût de la tomate. Mais je voyais bien à leur visage et à leur façon de pas manger avec appétit que c'était compliqué pour eux de manger ce plat. Donc, ils ont fait l'effort, vraiment. Et après, surtout, ils avaient un sentiment de satiété qui n'était pas assouvi. Parce qu'il n'y avait pas de gras, parce que c'était pas de la... Voilà, il n'y avait pas de gras, il n'y avait pas de gras supplémentaire, parce qu'il n'y avait pas ce bouillon réchauffant non plus et délicieux, imprégné de gras. Et donc, ils se sont refaits à manger. Voilà. Et je pense que... ils m'en ont parlé plus tard, d'ailleurs. C'est quelque chose dont ils se souviennent et qui les font beaucoup rire aujourd'hui. Et ils me le disent maintenant qu'on se connaît bien mieux, que pour eux, c'était vraiment pas appétissant et vraiment pas bon, quoi. C'était... Et la tomate, ça reste dans la steppe. C'est un encas, mais ils ne sont pas tous fans de la tomate.
À travers les répertoires de saveurs induits par nos patrimoines culinaires, nous sommes tous et toutes sur Terre autant d'humains socialisés pour apprécier tel ou tel faisceau de goût, de texture, de manière de cuisiner et d'accommoder les ingrédients. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », faisait déjà remarquer le gastronome français Brillat Savarin dans sa Physiologie du goût. Ce que nous aimons manger fonde notre identité. Une identité de fait, mais aussi une identité revendiquée. Un épisode diplomatique illustre bien les tensions possibles à propos d'alimentation, même sur un sujet au demeurant aussi léger que celui de la pizza hawaïenne. En 2017, en marge d'un déplacement dans un lycée, le président islandais Gudni Johansson a plaisanté en affirmant que si c'était en son pouvoir, il ferait volontiers interdire le principe même de l'ananas sur les pizzas. Il n'en a fallu pas plus pour mettre le feu aux poudres et vexer les amateurs et amatrices de pizza hawaïenne. Sur Internet, un début de polémique naissait. Alors Premier ministre du Canada, où la pizza hawaïenne aurait été inventée, selon le récit généralement rapporté, Justin Trudeau lui-même était monté au créneau pour défendre la pizza hawaïenne. Gudni Johansson avait donc fini par prendre à nouveau la parole publiquement pour se dire bien heureux de ne pas avoir le pouvoir d'interdire un plat, bien sûr. Dans notre prochaine série, nous profiterons du mois de décembre pour vous emmener sur un thème sous forme de Madeleine de Proust, typique des retrouvailles en famille. Et on a grand hâte de vous faire découvrir ces épisodes qui sentent bon les souvenirs d'enfance et les effluves de la cuisine domestique. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts, ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.